leçon. Ça, c'est pour appeler Paul Aurélien à venir en personne, à visiter les lieux. Et en fait, je vais commencer par ça. Alors, la porte...
je vérifie de temps en temps.
Et puis, sinon, les gens, ils vont taper là où... S'ils sont vraiment motivés. Il faut savoir être motivé. Alors, ça, je commence par ça. C'est un des éléments fabuleux de la légende de Paul Aurélien. Et c'est vraiment fabuleux. Donc, je vais au milieu de l'histoire et au milieu des légendes. Il y a une histoire. Une histoire, on va dire... objective, avec des traces, des lieux, la toponymie du bourg, Saint-Paul, etc., Saint-Paul d'Amiens. Et il y a des textes du roi Childeric, président, etc., un texte qui a vraiment existé. Mais c'est aussi un personnage légendaire. Qui arrive un peu en retard, ça va vous donner une idée. Donc, dans la légende, à un moment, Paul Aurélien, qui commence à avoir une vingtaine d'années, parce qu'il a commencé à avoir un monastère à 15 ans quand même, hein, dans sa 15e année, il est amené chez le roi du pays où il habite, c'est-à-dire le pays de Galles. Et dans les légendes, on dit le roi Marc, oui. Celui que l'on voit, vous savez, dans la légende de Tristan et Iseult. Or, c'est encore avec des dragons, vous savez, il a fallu que Tristan puisse vaincre l'ennemi. Mais là, c'était en Irlande, il ne faut pas que je parte par là, je reviens. Hein. Et Paul Aurélien demande, il s'appelle Paul en fait, hein. Aurélien c'est qu'il est auréolé, c'est ça que ça veut dire. Hein. Il demande à aller fonder... un monastère en Armorique, de l'autre côté de la mer armoricaine, où ils circulaient tout le temps, c'était les mêmes personnes. Il y avait des Armoricains, et il y avait des Britons, des Bretons, et c'était pas des envahisseurs, faut dire c'est des migrants plutôt. Vous voyez, c'était pas, il n'y avait pas une lutte entre eux. Et en fait, il lui demande une cloche. Une cloche, à cette époque, c'était pas avec un bâton au milieu, c'était quelque chose pour accrocher au centre. C'était une cloche forgée au marteau, hein, faite de plusieurs métaux. Celle-ci, elle est faite de plusieurs métaux, en Inde. Et après, on les a appelés bols tibétains, c'est les Tibétains surtout qui les ont diffusés. Enfin, c'est comme ça que c'est connu, mais il y en avait encore avant. Et apparemment, il y en a... Presque tous les peuples partout dans le monde ont bien compris que quand on pouvait faire résonner un truc creux et rond, et que ça faisait une onde, hein, même les enfants jouent avec des verres, par exemple, enfin, du son. Donc ils demandent au roi Marc, et peut-être le roi Conomor, qui était un roi, dans l'histoire, qui était un roi extrêmement violent et cruel d'ailleurs, il demande une cloche. Et le roi lui refuse. Le roi ne veut pas que ce jeune homme prometteur qu'il voudrait faire évêque là-bas, à Glamorgan, enfin, en pays de Galles, il ne veut pas qu'il s'en aille. Il veut le garder auprès de lui, comme maintenant on voudrait garder des grands chercheurs, par exemple. On ne veut pas qu'ils aillent migrer, je ne sais pas où, tu ne veux pas t'asseoir au plus, moins de dos, moins de, dans mon dos.
Non, mais c'est parce que je voulais t'enregistrer, en fait ça ne marche pas.
Bon,
là, ça se fait là.
Donc, on lui refuse. Je passe comment il est arrivé, je passe. Et quand il arrive à l'île de Bâche, c'est son cousin Wittur, qui a un palais, qui deviendra un monastère après, il commence à discuter avec son cousin, qui est aussi un Briton, qui est arrivé dans la première vague de migration. Il y en a eu une grande au quatrième. Et il note au cinquième, sixième.
Les deux frères.
Hein, de notre ère, de notre ère. Et il parle du fait qu'il est parti en s'enfuyant, en héros récalcitrant. C'est pour ça que je dis qu'il est récalcitrant, il ne veut pas le pouvoir. Donc, il ne sait pas ce qu'il attend de ce côté-ci. Il est parti, il est à table, il discute, et voici qu'arrive un pêcheur qui dit « J'ai trouvé une cloche dans la gueule d'un énorme poisson. » C'est probablement une lotte. Vous connaissez les lottes ? Vous savez, les lottes, c'est des grosses gueules comme ça, avec des grandes joues. Quand on fait des joues de loutre, elles ouvrent la gueule, elles ont des antennes aussi. Et les têtes sont plus grosses que leur corps. Hein. Donc, il la voit, il apprend, il se dit, c'est irglaze. Irglaze, c'est la longue verte, on pourrait dire. Longi fluvia en latin, mais bon, voilà. Il se dit, mais c'est la cloche qu'on m'a refusée, qui a dû être jetée à la mer, Dieu sait comment, avalée par une lotte, ou Dieu sait comment, lequel poisson est arrivé à l'île de Bas, juste au bon moment où il était là, et il la retrouve. Et c'est comme dans les histoires zen, et puis surtout les histoires juives, il éclate de rire. Et j'aime beaucoup ce saint et ce héros qui rit. Il rit. Il dit, mais c'est pas possible. C'est celle-là, celle dont je te parlais, là. Alors, elle n'a pas cette forme-là. Vous pouvez aller la voir à la cathédrale de Saint-Paul de Léon. Elle a une forme beaucoup plus allongée. Elle est ir, comme on dit à Amen, ir, une pierre levée, droite. Elle est ir. Et donc, il la prend. Et il est très heureux parce que, selon les pays, les cloches servent à ceci. Quand on va en Inde, quand je vais en Inde, quand on arrive dans un temple, on sonne la cloche pour appeler les dieux. C'est-à-dire qu'on leur dit, on arrive, venez habiter vos statues, venez dans votre vibration nous voir. Et dans tout le tour de la Méditerranée, donc les trois religions du livre, et etc., la cloche, elle est faite pour appeler les fidèles. Mais est-ce que vous imaginez, avant, il y avait la cloche, les gens écoutaient quelle heure il est. Ça sonnait matine, ça sonnait ceci, ça sonnait ça. Ça rythmait la vie, hein. C'était extrêmement important. Partout. Il y a des beffrois, tout ça, dans toute l'Europe, ça s'est répandu. Et là, de l'autre côté, du côté du Maghreb, c'est la voix du muezzin qui appelle. C'est l'appel à la prière. Et c'est une voix, là. C'est lui qui fait la cloche, on peut dire. Et c'est magnifique aussi. Donc il y a cette idée d'appel. Et cette cloche, j'ai un copain un tout petit peu plus vieux que moi, il doit avoir 84 ans maintenant, oui, comme ça, 3, 4. Il se rappelle encore avoir mal à la tête. Il est allé à la cathédrale à Saint-Paul, on avait sorti la cloche, on l'avait fait sonner autour de sa tête pour le guérir. C'était une cloche qui guérissait. Et même la légende disait que ça pouvait réveiller les morts et qu'il y a eu au moins un ressuscité. Ça donne l'ambiance. Vous voyez, c'est quand même... il y a du concret. Elle existe, cette cloche. Elle existe. Au point que, comme ça je place un peu la situation, au point que, quand on a, ceux qui ont commencé à écrire la vie de Paul Aurélien, c'était 3 siècles après. 3 siècles après qu'il soit mort. Vous imaginez maintenant, nous, si maintenant on commençait à raconter la vie de gens qui ont vécu 3 siècles avant nous. Vous pouvez calculer, vous dites, ah ouais, d'accord. Et ils la racontaient à travers leur grille, à eux, forcément. Donc ils avaient la cloche... Il fallait qu'ils racontent à leur manière, à eux. C'est-à-dire qu'il y a de multiples légendes qui dépendent de l'époque à laquelle elles ont été écrites. Et il y a une histoire qui fait le substrat. Et vous allez pouvoir écouter à moitié en rêvant. Vous n'allez pas tout retenir, tout entendre. Il y a trop de trucs, je vais essayer de ne pas faire trop précis, enfin, tout ça. Mais ce qui est important, c'est que ça soit, c'est qu'on s'aime. Alors, je l'écris de plusieurs façons. C'est important qu'on s'aime. C'est ce que Paul Aurélien était venu dire ici. Hein? C'est important qu'on s'aime, l'heure, quelqu'un me disait aussi, du point de vue sémiologique, le sème, c'est le sens. Donc, c'est important.